Alors ce matin, je pense que je vais terminer la série sur la reconnaissance, donc ce thème que nous avons gardé tout l'été et qu'on a essayé d'explorer un peu sous différentes coutures. J'ai eu l'occasion de prêcher déjà en juillet sur ce thème et donc j'étais un peu embêté, je me disais bon, il me semblait avoir un peu tout dit, qu'est-ce que je vais dire ? Et finalement, j'ai trouvé, et la dernière fois, j'avais parlé plus davantage en fait sur notre reconnaissance envers les uns et les autres, et ce matin, je voudrais vraiment m'arrêter sur notre reconnaissance envers Dieu. Et pour commencer, c'est une première pour moi, je vais essayer de faire une blague. Alors... En général, mes blagues, quand je les raconte, les gens ils me regardent d'un air bizarre après. Alors, c'est pas une blague de moi, j'ai trouvé ça sur Internet, mais elle était tellement à propos. Allez, je me lance. C'est un homme qui est dans sa voiture. C'est lundi matin, septembre, la reprise. Et il a un rendez-vous ultra important. C'est pour son travail. Et il est vraiment nerveux, il transpire, il est là à son volant parce qu'il n'arrive pas à se garer. Il tourne, il râle. Il n'arrive pas à se garer, il y a tellement de monde. Lundi matin, c'est blindé. Toutes les places sont prises. Alors, à un moment, il est désespéré. Et ce qu'il fait, ultime recours, il lève les yeux au ciel et il dit « Seigneur, aie pitié de moi. Si tu me trouves une place de parking, je te promets d'aller à l'église » tous les dimanches, d'arrêter l'alcool et toutes mes bêtises du week-end. Et là, miracle, juste devant lui, il y a une place qui se libère. Vite, il y va, il fait son créneau, tac, il se gare, il soupire de soulagement, il lève à nouveau les yeux au ciel et il dit à Dieu, « C'est bon, laisse tomber, j'en ai trouvé une !» Ah merci, vous m'encouragez là. Ah, si tu racontes mon répertoire de blagues, après. Alors moi, quand j'ai lu ça, au début, j'ai ri. Et en fait, il y a une expression en France qui dit « rire jaune ». En plus, moi, j'ai entendu souvent celle-là, « rire jaune ». Parce qu'en fait, cette blague, elle a un peu les deux effets. Au début, on rigole, puis on trouve ça marrant parce qu'il y a une absurdité dans le truc. Puis en fait, après, ça descend, puis là, ça commence à piquer. Ça commence à piquer parce qu'en fait, ça touche un point qui est quand même un petit peu vrai. Et en fait, c'est ça que je voudrais partager ce matin. Alors, le texte que j'ai voulu introduire avec cette blague, c'est un passage en Luc 17, en fait, c'est une histoire. C'est même pas une parabole où, vous savez, des fois, Jésus, il invente des trucs, on sait même pas si c'est vrai ou pas, mais là, c'est une histoire, c'est un truc qui s'est vraiment passé. Et donc, je vais vous le lire en Luc 17. C'est l'histoire, dans les Bibles, c'est écrit « Les 10 lépreux ». Je ne sais pas si vous arrivez à lire, bon, je le lis de mon côté. Donc, c'est Jésus qui se rend à Jérusalem, et qui passe entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entre dans un village, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils se tiennent à distance. Et là, ces lépreux élèvent la voix et ils disent « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Dès qu'ils les voient, Jésus leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Ils y vont. Et pendant qu'ils y vont, ils sont purifiés. Il y en a un des 10, se voyant guéri, il revient sur ses pas, il glorifie Dieu à haute voix et il tombe sur sa face. Il se prosterne devant Jésus et il le remercie. Il lui rend grâce. Et c'est un Samaritain, nous dit le texte. Et là, Jésus prend la parole et il dit, mais vous étiez 10. Les 10 n'ont-ils pas été tous guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et là, il dit à celui qui est revenu, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors quand j'ai cherché pour préparer ce message, j'étais assez content finalement que personne n'ait pris ce texte, parce qu'il me semble que c'est quand même peut-être le texte, un des textes les plus clairs sur la reconnaissance et l'ingratitude. Et donc j'aimerais m'arrêter sur ce texte avec vous ce matin, qu'on s'arrête et qu'on écoute vraiment Dieu et qu'on écoute le Saint-Esprit parler à nos cœurs à travers ce texte, cette histoire. Vous savez, à l'époque, être lépreux, j'imagine encore aujourd'hui, mais à l'époque, être lépreux, c'était terrible. C'était terrible parce qu'on vivait exclu complètement de la société. La loi de l'Ancien Testament, la loi que Dieu a donnée à son peuple, demandait expressément que les lépreux vivent à part, à cause de la contagion. Et donc il y avait même une distance de sécurité que les lépreux devaient tenir. C'est pour ça qu'ils devaient dire devant eux, quand ils allaient près d'une foule, « Lépreux, impur, impur, impur », pour que les gens s'éloignent à cause du risque de contagion. Alors on peut imaginer comment un lépreux vit ça. On peut imaginer la honte, la solitude. Peut-être qu'ils avaient des familles, ils ne peuvent plus les voir. Économiquement, qui est-ce qui voudra embaucher une personne comme cela? On peut voir que donc les lépreux vivaient quelque chose de terrible. Et quand ils voient Jésus, on peut très bien se dire que c'était leur dernière chance. C'était très probablement leur dernière chance. Et c'est pour ça que quand ils le voient, ils crient à lui. Ils élèvent la voix, dit le texte. Il paraît que quand on est lépreux, la voix même est comme atrophiée. Et donc c'est un effort supplémentaire. Ils crient à Dieu, un signe de désespoir. Et ce qui est intéressant, le premier point que je veux souligner dans cette histoire, c'est que Jésus est très rapide à leur répondre. Dès qu'il les voit, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Dès qu'il les voit. Alors l'Ancien Testament, en Lévitique 14, pour ceux qui veulent chercher, explique que quand on est lépreux, si on pense être guéri, c'est-à-dire purifié, eh bien, il y a toute une démarche à faire pour réintégrer le peuple et être déclaré pur. Et c'est-à-dire aller se montrer au sacrificateur, et celui-ci regarde le corps, examine, et puis après, il y a tout un ensemble de rituels, et à un moment, il est déclaré pur, et là, il peut retrouver une vie normale. Et donc, quand Jésus dit « Allez vous montrer au sacrificateur », en fait, c'est comme s'il leur disait « vous allez être guéri, c'est imminent, commencez les démarches pour votre réintégration ». Et les lépreux, les 10 lépreux, ils le croient, ils ont à ce moment-là assez de foi pour se mettre en route, et sur le chemin, effectivement, ils sont guéris, ils sont purifiés de cette lèpre. Et là, on peut imaginer la joie, et même c'est leur vie qui bascule, c'est la fin d'un cauchemar, c'est vraiment une réponse énorme. Je voudrais m'arrêter un moment sur le fait que Jésus n'a rien demandé. Il n'a posé aucune condition. C'est quand même étonnant. Des fois, on a l'impression qu'il faut faire tout un chemin de croix, faire plein de choses pour que Dieu nous exauce, pour que Dieu réponde à nos prières. Mais en fait, on voit, et en fait, quand on lit les évangiles, on voit que quand les gens demandent à Jésus d'intervenir dans leur vie, Jésus ne pose pas 10 000 questions. Jésus le fait. Quand les gens crient à lui, Jésus répond. Et il ne guérit pas, il ne fait pas des miracles en fonction des mérites des personnes. Il ne leur pose même pas ces questions-là. Il répond simplement. Il répond parce qu'il aime, parce que Dieu est bon. Vous savez, il y a dans les psaumes, je ne sais plus où, Un texte qui dit que Dieu est auprès des malheureux, de ceux qui souffrent et qui ont le cœur brisé. Et c'est vraiment ça. Quand Jésus, en fait, guérissait aussi simplement, aussi gratuitement, c'est parce qu'il montrait, il révélait le cœur de Dieu. Que Dieu n'est pas ce Dieu qui attend des preuves, qui attend qu'on achète. Dieu aime et Dieu bénit. Il dit de son Père, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il aime ceux qui ne l'aiment pas. C'est Jésus qui dit ça en Matthieu 5. Dieu est bon. Dieu est bon. Trois mots. Il y a tellement dans ces trois mots. Dieu est bon. Peut-être on est chrétien depuis plusieurs années et puis on sait plein de choses. On sait que Dieu est bon. Très vite, on l'a compris intellectuellement. Mais c'est une révélation. Dieu est bon. Il y a un grand passage en Exode 34. C'est Moïse, grand Moïse, qui dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, je vais te montrer toute ma bonté. On a l'impression que Dieu n'a pas bien entendu Moïse. Montre-moi ta gloire et lui montre sa bonté. En fait, je crois que Dieu choisit de se révéler aux hommes et il ne révèle pas tout de lui. On ne connaît pas tout de Dieu. Mais ce qu'il choisit particulièrement de révéler, de montrer aux hommes, à nous, c'est sa bonté. C'est son amour. Et en réfléchissant, on pourrait comprendre, on pourrait voir que Dieu aurait très bien pu choisir autre chose. Il aurait très bien pu révéler sa gloire avec un grand G et montrer quel Dieu est, il est grand, il est majestueux et que c'est terrible d'enfreindre ses commandements. Il aurait pu faire ça, mais il a choisi de montrer sa bonté. Et quand il guérit aussi librement, aussi simplement, quand Jésus voit un malheureux et qu'il répond à sa demande, c'est parce que Dieu veut montrer son amour et sa bonté aux hommes, qu'ils soient méchants ou qu'ils soient bons, qu'ils soient justes ou qu'ils soient injustes. Et quel que soit notre état ce matin, quel que soit l'état de notre cœur ce matin, je veux dire sur votre vie, sur nos vies, Dieu est bon pour toi. Il est bon pour toi parce qu'il l'a choisi, pas à cause de tes mérites, mais parce qu'il a choisi de te montrer sa bonté. Et Jésus, donc, quand ce lépreux revient à lui, il est étonné. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et là, on sent en Jésus de l'étonnement, de la déception, de la tristesse et de l'indignation. Son Père, qu'il aime tant, guéri, un miracle, et personne pour le remercier. Un étranger. Alors en fait, l'étranger en question, c'est un Samaritain. Et les Samaritains, pour vous expliquer, en fait, quand le peuple d'Israël a été envoyé en exil dans les pays alentours, Babylone, etc., la Syrie et tous ces pays qui avaient envahi à un moment Israël, il y a eu, à cette époque-là, on faisait des échanges de populations. Donc les rois qui étaient vainqueurs échangeaient les populations. Donc ils prenaient les Juifs, ils les mettaient en Assyrie, ils prenaient des Assyriens et puis ils les mettaient en Israël. Et les Samaritains, en fait, sont issus de ces générations d'étrangers qui se sont installés dans le pays. C'est pourquoi les Samaritains étaient haïs des Juifs, parce que c'était des étrangers, c'était des souvenirs de l'oppresseur. Et ces Samaritains, ils avaient grandi ici, donc ils restaient dans le pays. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus qui vient exprès pour le peuple juif, eh bien personne dans cette histoire ne le remercie, mais c'est le Samaritain qui le remercie. Et il y a des chiffres ici, Alors ceux qui aiment les maths, on peut faire des statistiques avec des chiffres. Et donc on a 9 dixièmes, 90% d'ingratitude devant la bonté de Dieu. D'un côté 90% d'ingratitude et de l'autre côté cette bonté imméritée, gracieuse, immense de Dieu. Et je crois que cette histoire montre, révèle le cœur humain, le cœur de l'homme. J'ai envie de pousser encore un peu plus loin notre cœur. La petite blague d'introduction, elle pique parce qu'elle met en évidence quelque chose qui est un peu vrai. On le sent, il y a de la vérité là-dedans. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment avec Dieu, là où vous en êtes avec Dieu, mais on est nombreux finalement à parfois s'approcher de Dieu quand ça va mal. On crie à lui, on vient à l'église, on ouvre notre Bible, on fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Et puis une fois que la situation s'arrange, on prend la tangente et on s'éloigne, on l'oublie. Et je crois que personne n'échappe à ça. Plus ou moins. Ça nous est déjà au moins arrivé une fois. Comment on peut appeler ça ? Comment Dieu vit ça ? À votre avis ? Moi, je crois qu'il y a un mot qui décrit bien ce qui se passe là, c'est rejet. On veut recevoir ce que Dieu donne, mais on ne veut pas de lui. Rejet. On sait que Dieu est bon, et qui va nous donner les choses, et on veut en profiter. Mais au fond de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, on lui résiste, on ne veut pas de lui. C'est la dureté du cœur de l'homme, et c'est la dureté de notre cœur. Et en plus, le comble ici, c'est que les gens qui le rejettent sont des gens qui étaient rejetés, les lépreux étaient rejetés. Ça souligne encore plus l'ingratitude, je trouve. Dans les quelques versets qui suivent ce texte, Jésus explique à ses disciples qu'il faut que le royaume de Dieu vienne, mais il faut d'abord que lui souffre, qu'il endure beaucoup de souffrances et qu'il soit rejeté par les gens de ce temps. Dieu souffre du rejet. Et là encore, je crois que Dieu aurait pu se blinder, se protéger, rester distant, majestueux, se draper dans une gloire, vous savez, il reste dans le ciel, et finalement ne pas être trop touché par cette dureté du cœur de l'homme. Mais c'est un choix. Il a choisi de venir jusqu'à nous, et il a fait ce choix de s'exposer. Vous savez, quand quelqu'un te dit « je t'aime », il s'expose, parce qu'il montre son cœur. Alors je crois que chaque rejet ou chaque once de rejet, chaque poussière de rejet en nous touche Dieu. Et je crois que quand Moïse demande à Dieu dans un moment très intime, « Révèle-moi ta gloire », c'est quelque chose, il demande, c'est un cadeau, c'est quelque chose d'énorme ce qu'il demande à Dieu, et Dieu lui montre sa bonté. En fait, Dieu se révèle à lui. Il ôte ses voiles et dit « Voilà, regarde-moi ». Il s'expose beaucoup à Moïse à ce moment-là. On voit cette sensibilité du cœur de Dieu dans la personne du Saint-Esprit. Quand Adam tombe et commence à faire le mal, quand Saül, le roi qui était choisi par Dieu, commence à dérailler, à faire n'importe quoi, on peut lire que Dieu retire son Saint-Esprit. C'est Paul qui implore et qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Parce que Dieu, parfois, est triste. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'aimer quelqu'un et de vous faire rejeter par lui. Eh bien, ça fait mal. Ça fait plus mal que si on se fait rejeter par quelqu'un que on s'en fiche un peu. La douleur est proportionnelle à l'amour. Et j'apporte tout cela en ayant conscience que ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on connaît Dieu et qu'on marche avec lui, qu'on ne tombe jamais dans ces choses-là. Je crois au contraire que nous sommes des êtres humains et que notre cœur est un cœur d'homme. Et que même si Dieu promet « je changerai ton cœur de pierre en cœur de chair », je circoncirai ton cœur, et il le fait vraiment, mais c'est un processus qui dure toute la vie, et il y a toujours des zones dans notre cœur qui demeurent dures. Et on n'en a pas toujours conscience. Et ce que j'aimerais qu'on prenne conscience ce matin, c'est que Dieu amène sa bonté devant tous les hommes qu'il aime, et que cette bonté est sensible, et que la dureté de notre cœur le touche. J'ai un petit témoignage, j'ai demandé l'autorisation à mon épouse ce matin. Il y a quelques temps, c'était l'anniversaire de ma sœur. Et Aïke aime beaucoup ma sœur, elle aime beaucoup ma famille. Et mon épouse Aïke avait une idée pour un cadeau. Ma sœur fêtait ses 30 ans et donc elle a pensé faire 30 petits cadeaux. Et elle était vraiment emballée par cette idée, enthousiaste. Et moi, je n'étais pas emballé par cette idée. Parce que dans ma tête, un cadeau, c'est un truc grand, c'est en plus 30 ans, c'est bon. Donc, grand cadeau, je disais 30 petits cadeaux, c'est... Bon, voilà. J'étais pas emballé. Et en fait, il y a eu comme ça des discussions à table, le soir, là-dessus. Et puis, en fait, à un moment, j'ai glissé sans m'en rendre compte. J'aime ma femme, elle le sait. Mais j'ai glissé et je suis devenu ironique. Et à un moment, j'ai sorti une phrase. En fait, je me moquais de son idée. Et là, pour ceux qui connaissent ma femme, elle, comment on dit ça ? Dans les moments un peu de conflit, tout ça, ma femme, c'est une guerrière. Hein. Elle n'est pas du tout à s'aplatir, tout ça. Elle a un caractère un peu italien. Donc, c'est pas trop le genre... Et là, en fait, à ce moment-là, quand j'ai sorti cette phrase moqueuse, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. C'est tellement rare. Et là, ça m'a assourdi. Je me dis, mais oh, Toine, qu'est-ce que tu as fait là ? Et j'ai réalisé que j'avais blessé son cœur, son élan d'amour pour ma petite sœur, son élan d'amour avec cette idée de 30 petits cadeaux. J'étais venu la salir. Elle était touchée, elle en a pleuré. Et là, j'ai réalisé la dureté de mon cœur. Pourtant, j'aime ma femme, mais j'ai réalisé que je peux lui faire mal encore. Je crois qu'avec Dieu, c'est pareil. On peut aimer Dieu, sincèrement, mais il y a des moments où on peut toucher son cœur. Là, c'est 10 lépreux. Eux, apparemment, ils ne s'embêtaient pas trop de Dieu. Ils voulaient juste que Dieu donne, mais pas de Dieu. Ils ont touché son cœur. Alors, je crois que Dieu a fait exprès, il a fait ce choix vraiment. Il connaît le cœur de l'homme, il connaît notre dureté. Il n'est pas étonné, blessé, meurtri, comme quelqu'un qui pensait que l'autre était gentil et il est déçu. Pas du tout. Il sait exactement de quoi nous sommes faits. Mais il a fait ce choix de, face à la dureté du cœur de l'homme, de changer ce cœur en l'interpellant par l'amour. Et c'est en montrant toute sa bonté et son amour qu'il veut arrêter les hommes dans leur méchanceté, dans leur dureté, et les aider à prendre conscience. Il veut changer nos cœurs par l'amour. Et vous savez, quand nous sommes confrontés à l'amour et que nous voyons notre méchanceté, il y a deux scénarios possibles. Soit on se durcit encore plus, soit on se repent, on demande pardon. Il y a un verset en Romains 2, c'est Paul qui dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité ? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais par ton endurcissement de cœur, Par ton cœur dur et impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et du juste jugement de Dieu. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu ne veut pas montrer sa colère aux hommes. Ce n'est pas le temps. Dieu n'est pas ce père fouettard. Dieu, devant ce que nous sommes, avec nos réussites, avec nos bêtises, avec notre méchanceté, notre dureté, Dieu montre son amour. Dieu montre sa bonté. Et il montre qu'il est ce père qui veut que les enfants reconnaissent en lui ce père et se laissent corriger par un père. Et quand Paul dit « Mais par ton endurcissement de cœur, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère », je crois que la colère, c'est juste pour ceux qui auront toujours refusé la bonté de Dieu. En fait, si tu rejettes son amour, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste plus que sa colère. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste. Et qu'il ne peut pas laisser le péché impuni. Alors ce matin, par rapport à cette bonté de Dieu, j'ai vraiment prié que Dieu nous révèle sa bonté. Comme Moïse a eu cette révélation de la bonté de Dieu. Peut-être que vous êtes dans le cas que la bonté de Dieu n'éveille plus rien en vous. Ça peut arriver. On n'est plus touché par son amour, on sait qu'il pardonne, on sait qu'il aime, on sait tout ça, mais ça ne fait rien. Chrétien désenchanté, ça peut arriver, il y a des passages comme ça, ça peut arriver. Et ce que j'ai envie de dire, c'est la reconnaissance. Dire ce que Dieu est. Dire avec votre bouche ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous savez, la première prédication que j'ai faite en juillet, je définissais finalement la reconnaissance en disant mais c'est dire ce qu'on voit de Dieu. Et en particulier dire ce qu'on voit de sa bonté. Le célébrer. Bien, je crois qu'il y a un chemin pour vous. Si vous voulez retrouver l'amour pour Dieu, la reconnaissance est un chemin. Commencez à être reconnaissant envers Dieu, à le dire, à l'exprimer, même si les émotions ne sont pas là. Mais commencez ce chemin. Je crois qu'il y a là une clé. Et puis, autre possibilité peut-être, vous avez le sentiment de n'avoir jamais connu l'amour de Dieu, de n'avoir jamais été vraiment touché, impacté par cet amour. Et je voudrais vraiment aussi vous encourager à faire comme ce lépreux et à le remercier. Peut-être juste parce qu'il est Dieu, le remercier juste parce que vous existez, mais de déclencher en vous un processus comme ça, commencer à le remercier, à lui rendre grâce. Et je crois vraiment que là, il y a le Saint-Esprit qui vient et qui nous aide à simplement nous ouvrir à l'amour de Dieu. Je voudrais maintenant m'arrêter sur ce lépreux reconnaissant. C'est intéressant de regarder ce que dit le texte. Ce lépreux, le 1 sur 10, là, le 10%, qui revient vers Jésus. Le texte dit, il fait demi-tour. Il glorifie Dieu à haute voix et il se prosterne devant Jésus. En fait, ce qu'on assiste avec cette histoire, c'est une conversion. Il fait demi-tour, comme la repentance, ça veut dire faire demi-tour, métanoïa, changer dans sa tête, faire un demi-tour dans sa tête. Il glorifie Dieu à haute voix, il témoigne. Et il se prosterne devant Jésus, il adore. Une conversion. Et l'élan qui lui fait vivre tout ça, qui lui fait prendre ce chemin de la conversion, c'est la reconnaissance. Il a envie de remercier celui qui l'a guéri, et donc il va, et en allant avec cette reconnaissance, ce merci dans son cœur, et bien bam, 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 il y a tout ça qui se passe. Il vient à Dieu, et il arrive au pied de Jésus. Et là, il y a quelque chose de fort, je crois, avec la reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance, dans ma tête, en fait, avant de faire cette série, moi, j'imaginais la reconnaissance comme un peu l'option qu'on offre à Dieu, la cerise sur le gâteau qu'on offre à Dieu. Ah Dieu, je t'ai donné ma vie, je suis un bon chrétien, je fais tout ce qu'il faut. Allez, je t'offre une reconnaissance en plus. Et là, le plus qu'on lui offre. Et en fait, avec cette série, j'ai regardé les textes, la Bible, et je suis étonné de voir à combien de fois la reconnaissance est mentionnée. Et notamment, un truc qui m'interpelle, c'est Paul dit toujours « priez et soyez reconnaissants ». Grosso modo, c'est ça. Il associe la prière avec la reconnaissance. Il y a vraiment une clé importante là-dedans, et ce n'est pas une option. Alors, j'ai trois petites choses à dire. En fait, la reconnaissance, elle est liée à la foi. J'ai envie de dire que la reconnaissance envers Dieu, notre reconnaissance, est liée à notre foi. En fait, elle manifeste notre foi. Elle est un fruit de notre foi. Et c'est intéressant de voir la réponse de Jésus à ce lépreux. Ce lépreux, il vient, il le remercie, et Jésus lui répond. Des fois, on a toujours l'impression que Jésus répond à côté. Ta foi t'a sauvé. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Parce que Jésus a vu derrière cette attitude sa foi. Et on voit bien que sa reconnaissance manifestait sa foi. Inversement, on peut voir que l'ingratitude manifeste l'incrédulité. La reconnaissance manifeste la foi, l'ingratitude manifeste l'incrédulité. Et on voit bien ça, je crois qu'il y a pour moi une preuve, ça me convainc. Dans l'épisode dans la Bible, le summum d'ingratitude dans la Bible, vous le situez où? Où est-ce que on atteint les sommets de l'ingratitude dans les histoires bibliques? Il y a une petite question. Non? Ouais. Alors, j'ai entendu la réponse de Jasmine, je crois, qui parlait du désert, non? Le peuple dans le désert. Le peuple d'Israël dans le désert. Dieu les délivre de l'Égypte, où ils étaient 400 ans en esclavage et tout. Et le peuple dans le désert, ils font que râler, ils donnent à manger. Non, ça va pas, on veut de la viande. Enfin, ingratitude terrible. Et l'épître aux Hébreux explique en fait leur problème, c'est l'incrédulité. Et que s'ils ont déplu à Dieu, et s'ils se sont perdus 40 ans, c'est parce qu'ils étaient incrédules. L'ingratitude est liée à l'incrédulité et la reconnaissance à la foi. En fait, on est reconnaissant envers Dieu parce qu'on voit s'il fait des choses dans notre vie. Mais plus que ça encore, on peut être reconnaissant envers Dieu et dire ce qu'on croit. Pas simplement dire ce que je vois, ce que je constate dans ma vie. Seigneur, je te remercie parce que j'ai un travail, je te remercie parce que j'ai une famille. Mais on peut dire aussi ce qu'on croit. Et c'est ce que Paul fait. Il dit par exemple, « Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. » C'est sa foi qui parle, c'est sa foi qui remercie. C'est sa foi qui est en action et qui amène la reconnaissance. Et dans ce sens, la reconnaissance est une puissance pour le chrétien, parce qu'elle devient prophétique. Elle annonce, elle célèbre les promesses qui sont en cours, qui sont en marche, qui sont en train de s'accomplir, qui sont déjà et pas encore. La reconnaissance n'est pas une option, elle est une clé, comme la prière. Et je crois que si on prend conscience de ce lien entre notre foi et notre reconnaissance, eh bien on peut progresser dans la reconnaissance. Un deuxième point, j'ai trouvé une chose assez étonnante en préparant, c'est que la reconnaissance, dans un sens, ouvre le ciel. Que la reconnaissance ouvre quelque chose de puissant dans le cœur de Dieu. Et je le vois dans cette histoire du lépreux. Il est guéri, donc il est reconnaissant. Merci de m'avoir guéri. Et là, parce qu'il a été reconnaissant, Jésus ouvre le ciel pour lui. Et il ne lui dit pas « Bravo, ta foi t'a guéri ». Il lui dit « Bravo, ta foi t'a sauvé ». Le ciel, cet homme a été sauvé. Les 9 autres ont été guéris, ils ont été bénis, bonté de Dieu. Mais d'après cette histoire, ils n'ont pas été sauvés. mais lui, il a été sauvé. Et je crois, là aussi, que la reconnaissance est une clé puissante pour ouvrir le ciel. Je voyais encore cela dans l'épisode de la multiplication des pains. Jésus qui est devant 5000 personnes, et puis ils ont 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit à ses disciples, toujours avec son humour, allez-y, nourrissez-les. Et les disciples, écoute, 5 pains, 2 poissons, il n'y a pas le compte. Et Jésus dit, bon, allez, je vais le faire, passe-moi les 5 pains et les 2 poissons. Et là, dit le texte, qu'est-ce qu'il fait ? Il rend grâce, il remercie Dieu, il partage les pains, et les 5000 personnes sont nourries. La reconnaissance arrive pile à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est une belle coïncidence. Et j'ai envie de dire, la reconnaissance, rajoutée à toutes nos prières, à tout ce qu'on peut faire, mais la reconnaissance ouvre le ciel. Je crois que vraiment Dieu est sensible. Et c'est, je reviens toujours à cette sensibilité de Dieu. Si Dieu est touché par notre ingratitude, il est touché par notre reconnaissance. Et je crois que vraiment, c'est pas optionnel. C'est pas juste « je t'offre quelque chose, Seigneur, en plus ». Mais il y a vraiment quelque chose de puissant là-dedans. Et je terminerai sur l'idée que cette reconnaissance, notre reconnaissance, si nous jouons vraiment le jeu, si vraiment nous laissons porter par le Saint-Esprit, notre reconnaissance ne peut nous conduire que à l'adoration. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce lépreux. Il vient et il arrive aux pieds de Jésus. Il se prosterne et il l'adore. C'est pas juste la reconnaissance des paroles glissées de temps à autre dans nos prières. C'est pas juste voir que Dieu nous donne. C'est beaucoup plus. Être reconnaissant envers Dieu, c'est une consécration, c'est une attitude. Et c'est finalement, comme le lépreux, tout donner. Tout donner. En fait, notre reconnaissance nous conduira à tout donner, à nous consacrer à Dieu. Alors dans, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la première slide, j'avais mis ce petit un titre. En fait, je suis toujours embêté avec les titres des prédications, je ne sais jamais quoi mettre. Et j'avais mis un titre, Dieu, 3 points, un cœur sensible. Alors dans un sens, on pourrait dire que Dieu n'est pas sensible parce qu'il n'est pas sensible comme un être humain. C'est-à-dire que Dieu n'est pas fragile, il n'y a pas de faiblesse en lui. Donc dans ce sens, non, il n'est pas sensible. Mais dans un autre sens, oui, il est très sensible. Il est très sensible à ce que nous pouvons lui dire, à ce que nous pouvons toucher avec nos paroles, avec nos attitudes, nos pensées et nos gestes. Parce que l'amour est sensible. Et dans ce sens-là, oui. Et je voudrais vraiment nous inviter à prendre le temps avec Dieu, devant Dieu, et lui poser cette question simplement, Seigneur, est-ce que je suis reconnaissant ? Est-ce que ma reconnaissance te touche ? Et puis, simplement le laisser éclairer notre cœur. Et je crois que s'il y a un peu de dureté en nous, Dieu est bon pour nous le révéler. Et cette bonté va nous pousser simplement à la repentance. Parce que sa bonté n'est jamais là pour nous punir, mais pour nous dire « repends-toi et aime-moi ». Comme je t'aime. Seigneur, merci parce que tu es bon. Et merci parce que ta bonté, tu la révèles. Elle remplit notre vie, elle remplit notre quotidien, elle remplit aujourd'hui cette journée. Donne-nous des yeux pour le voir. Donne-nous ce cœur pour y être sensible. Donne-nous ce cœur, Seigneur, pour voir ta bonté et être profondément reconnaissant. De cette reconnaissance qui dépasse les mots, de cette reconnaissance qui dépasse tout ce qu'on a pu faire, mais qui nous conduit sur ce chemin d'adoration, de tout te donner comme ce lépreux, et d'être à toi, Jésus, et de te célébrer. Amen.